Abbiamo il capitolo 19, c'è da dire che chi nous a portato della Terre, ses études. Et nous avons patienté pendant de longs mois de grandes tribulations, bien de savoir que maintenant, le chapitre 19, c'est fini. Et on va être conduit par la parole de Dieu dans des choses très glorieuses qui marquent la fin, les fins. Ce chapitre commence avec des mots que nous avons déjà lus à plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse, après cela. Donc, ça se déroule selon le plan et le programme de Dieu. La chronologie est suivie. Et après cela, qu'est-ce que c'est ce cela? Eh bien, c'est ce que nous avons vu la fois passée et la fois avant, c'est-à-dire la chute de Babylone et tout ce que Babylone représente. Et avec la chute de Babylone, la fin du règne de l'Antichrist. C'est fini. Et alors, on entend ici un chant de victoire. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia !» Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Sa fume est montée au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône et dit en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu. Vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands, Alléluia. 4 fois Alléluia. Dans ces quelques versets. Moi, Alléluia veut dire louer le Seigneur. Et c'est étonnant. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est étonnant. Ici, c'est la première fois que nous lisons le mot Alléluia dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il est chanté quelques fois dans les psaumes, mais au Nouveau Testament, le mot Alléluia apparaît ici pour la première fois, et puis 4 fois en 5 versets. Si ça se répète, pourquoi est-ce que Dieu se répète? Parce que c'est important. Parce que c'est très important. Et il y a de quoi dire Alléluia. Vous savez, dans nos églises, nous sommes habitués à des gens qui disent Alléluia. N'est-ce pas? Dans certaines églises, ça se dit plus que dans des autres. J'ai lu le témoignage d'un pasteur d'une église en Argentine. Une église où les gens interrompent même le message en criant Alléluia, Alléluia. Au point où il se demandait si ce n'était pas seulement quelque chose qui est devenu habitude, qu'il ne réfléchissait pas avant de dire ça. Et il était un peu embêté parce que ça a perturbé la prédication. Alors, un dimanche, il a annoncé, à partir du dimanche prochain, quelqu'un qui crie Alléluia, je vais arrêter le culte, je viens chez vous avec le micro, et je vais vous demander de dire à toute l'assemblée pourquoi vous dites Alléluia. En entrant du culte, il dit à sa femme dans la voiture, ce sera fini, tu vas voir, la semaine prochaine, personne ne criera Alléluia. Dimanche prochain arrive, et les gens crient encore plus Alléluia. Il a tenu parole, il est descendu avec le micro, chaque fois que quelqu'un crie Alléluia, pourquoi est-ce que vous avez dit Alléluia? Et chaque personne a répondu, eh bien, je loue le Seigneur pour, et puis il a donné un petit témoignage. Ici, la grande foule, hein, il dit, j'entendais comme une voix d'une foule nombreuse. Ils ont de quoi dire Alléluia. La chute de Babylon, la fin du règne de l'Antichrist, la fin de 7 ans de tribulation, de terreur, d'horreur. Ils ont raison de dire Alléluia. Mais ça ne finit pas là. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, des choses que nous avons vues dans le premier chapitre, n'est-ce pas? J'ai expliqué le symbolisme de ces choses quand nous les avons lues au premier chapitre. Le symbolisme se répète, et c'est toujours avec la même signification, comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia !» 5e fois. Car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Fini le règne de l'Antichrist. Maintenant, le règne de Jésus, d'abord pendant 1000 ans de paix sur la terre, et puis sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux que nous regarderons plus loin, éternellement. Jésus règnera éternellement. Il y a de quoi dire à l'avenir. Et alors, c'est pas encore fini. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Nous aimons tous aller à mariage, non? Moi, j'ai eu le privilège dans mon ministère de célébrer beaucoup de mariages. J'ai toujours préféré des mariages aux funérailles. J'ai toujours beaucoup mieux aimé présider des mariages que des funérailles. Là, j'en ai fait aussi beaucoup. On va pas en mariage avec un mariage. On va en mariage, on est joyeux. Et je crois, et je parle d'expérience, et la plupart de vous, je pense aussi, on va au mariage avec encore plus de joie quand c'est son mariage. N'est-ce pas? Quand on est invité, on est déjà joyeux. Mais quand on est le marié ou la mariée, on est encore plus joyeux. J'espère. Si vous n'avez pas été joyeux à votre mariage, vous avez un sérieux problème. Mais ici, quel mariage? Les noces de l'agneau sont venues. L'agneau, nous savons qui c'est, il s'agit de Jésus lui-même, et son épouse s'est préparée. Qui est l'épouse? L'Église, c'est nous. J'ai toujours remarqué avec les mariages que l'épouse est beaucoup plus importante que l'époux. Il semble. J'ai parfois l'impression que l'époux est là seulement parce que on ne peut pas faire un mariage avec l'épouse toute seule. Il faut que lui soit là aussi. Mais, aussi, moi je suis comme ça, je m'excuse, hein, mais j'écoute les propos des gens. Oh, qu'elle est jolie. Regarde quelle belle robe qu'elle a. C'est toujours la femme, l'épouse. On dit jamais que l'époux est beau et qu'il a un beau costume. Non. On parle de l'épouse, n'est-ce pas? Et je me dis que l'épouse a besoin de beaucoup plus de temps pour se préparer que l'époux. N'est-ce pas? Il me semble. Je sais que lors de notre mariage, nous nous sommes mariés à 11 heures, mon épouse s'est levée à 5 heures, moi pas. Moi pas. Mais elle s'est levée à 5 heures parce qu'il y avait la coiffure, il y avait, je sais pas tout ce qu'elle a fait. Elle était jolie. J'ai des photos. Noir et blanc, bien sûr. Mais, ici, l'épouse, elle a déjà mis 2000 ans à se préparer. Espérons qu'elle va être jolie. Après 2000 ans. Ça doit être les plus longues fiançailles de l'histoire de l'univers. Ce mariage est quand même exceptionnel, vu les coutumes des temps de la vie. Le Dieu passera ceci. Au temps de la Bible, le mariage était arrangé. Les parents choisissaient un conjoint pour leur fils ou leur fille. C'était pas le fils qui cherchait une fille lui-même, comme aujourd'hui. C'était les parents qui arrangeaient. Et chez les Juifs, au temps de la Bible, le mariage avait d'habitude lieu quand le garçon avait 14-15 ans et la fille 12,5-13 ans. Donc ils étaient très très jeunes. Est-ce que vous vous êtes jamais fait la remarque? Comment ça se fait que Jésus n'est pas marié? Il aurait été normal que Joseph et Marie cherchent une épouse pour lui. Ça aurait été tout à fait normal. Le fait qu'il ne le fasse pas et que Jésus ne se marie pas est très anormal. Aujourd'hui, on a des gens qui arrivent à l'âge de 30 ans sans être mariés. Mais si les parents avant le mariage, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un époux et une épouse, n'est-ce pas? C'est certain. Jésus, ses parents n'ont pas cherché l'épouse pour lui. Nous comprenons pourquoi. Parce que l'épouse, c'est nous. S'il aurait déjà été marié à un autre, le plan de Dieu n'aurait pas pu être accompli. Mais maintenant, Jésus se marie. Jésus n'est pas contre le mariage. C'est pas pour ça qu'il n'est pas, qu'il ne s'est pas marié. S'il était contre le mariage, il n'aura pas opéré son premier miracle lors d'une réception de mariage, n'est-ce pas? Et il se servait souvent, de l'exemple du mariage dans ses enseignements. Par exemple, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront, l'époux leur seront enlevés, et alors ils jeûneront. Il y a la parabole des noces du fils du roi, auquel les invités refusent de venir. Et puis, il y a encore la parabole des vierges, n'est-ce pas? Il se sert de l'exemple du mariage dans son enseignement. C'est pas parce qu'il est contre le mariage qu'il ne s'est pas marié. C'est parce qu'il attendait que son épouse soit prête. Et maintenant, dans ce chapitre 19 et 20, l'épouse s'est préparée. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et qu'est-ce que ça représente, les noces de l'agneau? L'unification de Christ avec son Église. Jésus est l'agneau de Dieu, ça nous le savons. Quand il est baptisé, Jean-Baptiste dit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été l'agneau de Dieu sacrifié à la croix de Golgotha pour les péchés du monde. Et Dieu le Père a destiné Jésus, son Fils, à être le mari de l'Église, pour lesquels je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il y a une distinction. Dans l'Ancien Testament, Israël est l'épouse prophétique de Dieu le Père. Ésaïe dit, ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Israël devait être l'épouse de Dieu. Mais comme nous savons dans l'histoire de Israël, cette épouse n'a pas toujours été fidèle à son père, à son mari. Elle a, à plusieurs reprises, elle a commis l'adultère avec d'autres dieux. Je suis en train actuellement de relire le livre d'Ézéchiel, un livre difficile. Plus facile quand on a déjà compris l'Apocalypse. Vous allez voir si vous lisez Ézéchiel, ayant compris l'Apocalypse, Ézéchiel se comprend beaucoup plus facilement. Mais beaucoup du livre d'Ézéchiel, ce sont des sermons du prophète Ézéchiel qui se trouvent parmi les exilés à Babylone et qui commencent les jugements de Dieu contre Israël, contre Jérusalem, à cause justement de leur infidélité. Il dit, vous êtes prostitués, Ézéchiel. Il dit, vous êtes prostitués avec les idoles. Vous êtes prostitués avec les Assyriens, avec les Égyptiens, avec les peuples de Ammon et de Moab et d'Édom. Il les met tous en liste. Les Philistins, Tyr, Sidon, toute une liste. Et il dit, vous avez été infidèle à votre époux. Et nous avons aussi dans l'Ancien Testament le livre du prophète Osée, un homme qui a eu un appel de Dieu très difficile, n'est-ce pas? Dieu lui dit d'aller épouser une prostituée. Et comme il fallait s'attendre, cette prostituée lui est infidèle. Mais au lieu de la rejeter, il va la chercher chaque fois. Et c'est une illustration de ce que Dieu a fait avec son peuple. Bien que son peuple s'est prostitué avec des faux dieux, etc. Dieu n'a pas rompu les fiançailles. Ce qui aurait aussi été normal, selon les coutumes de l'époque. D'ici peu, quelques semaines, nous célébrons de nouveau Noël. Et dans l'histoire de Noël, nous arrivons au moment où Joseph apprend que Marie est enceinte et que lui sait que ce n'est pas lui le papa. Et la Bible dit qu'il a l'intention de rompre les fiançailles. Il va répudier Marie. Ce qui était son droit, même plus que son droit, on aurait dans les coutumes de l'époque, c'était impensable qu'il se marie à une femme qui a été infidèle même avant le mariage. Heureusement, pour l'histoire de Noël, et pour nous qui sommes ici ce soir, avant qu'il ne répudie Marie, l'ange vient chez lui et lui dit, écoute, ce que dit Marie est vrai. Ce que dit Marie est vrai. Je pense qu'on ne doit pas nous en vouloir à Joseph. Hein? Quand il découvre qu'elle est enceinte, elle lui dit, oui, mais je n'ai pas été infidèle, je suis enceinte par le Saint-Esprit. Soyons honnêtes, si vous avez une fille adolescente qui vient à la maison et qui dit « je suis enceinte, mais je n'ai pas péché, c'est par le Saint-Esprit », est-ce que vous allez la croire? Je crains que non. Mais heureusement que l'ange qui avait déjà rendu visite à Marie vient maintenant à Joseph. Et Joseph ne rompt pas les fiançailles. Le reste de l'histoire, nous le connaissons. Et Dieu non plus dans l'Ancien Testament, bien qu'Israël soit infidèle, plusieurs fois, beaucoup de fois, ils ne vont pas les fiançailles. Et il pardonne Israël. Et alors, par la bouche de ce même prophète Osée, il parle de la fin des temps. Pour connaître l'arrière-plan, je viens de vous expliquer, pour comprendre les paroles maintenant qui sortent de la bouche d'Osée. En ce jour-là, il parle de la fin des temps. Dit l'Éternel, tu m'appelleras, il s'adresse à Israël, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Ça, c'est déjà aussi quelque chose. Dans l'Ancien Testament, vous regardez Sarah, l'épouse d'Abraham. Comment est-ce qu'elle appelle son mari? Maître, n'est-ce pas? Parce que même dans le judaïsme aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, dans les juifs orthodoxes, le mari est au premier plan, la femme est derrière. Que j'habite à Anvers, nous avons beaucoup de juifs à Anvers. En été, on les voit se promener au parc central. Et je l'ai vu beaucoup de fois, le mari devant, avec éventuellement ses fils adolescents. Et derrière, à un mètre ou deux, respectueux, la femme avec les autres enfants. Pas main dans la main, l'un à côté de l'autre. Il faut l'Église pour rétablir la femme à la place où Dieu l'a créée au début. Ça, c'est notre étude, notre message. Mais si Dieu dit à la fin du temps, Israël, tu ne m'appelleras plus maître, tu ne m'appelleras pas Marie, nous serons Marie et Marie. Selon le plan de Dieu, le plan original. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Donc, ce que j'ai planifié pour toi, Israël, bien que jusqu'à maintenant, cela n'a jamais été accompli, à la fin des temps, cela sera accompli. Ça, c'est entre parenthèses, parce que ce qui nous occupe ce soir, surtout, n'est pas Israël, mais l'Église. Mais Israël, dans un sens, est une ombre de l'Église, un précurseur de l'Église ce soir. Et comme Israël est l'épouse de Dieu le Père, l'Église est l'épouse de Jésus le Fils. Et qu'est-ce que Paul écrit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et nous savons que l'amour, c'est le mot-clé. On dit du Nouveau Testament, mais ensemble de toute la Bible. Parce que un des versets clés de toute la Bible, nous le connaissons tous, qu'est-ce que c'est? Dieu est amour. Nous sommes la seule religion au monde, christianisme, qui dit Dieu est amour. Le Dieu de l'islam, nous n'avons pas besoin de regarder plus loin que le journal télévisé tous les jours. Ce n'est pas un Dieu d'amour. Le Dieu des bouddhistes non plus. Le Dieu des hindous non plus. Mais le vrai Dieu, notre Dieu, il est amour. Et cela est essentiel à l'évangile, n'est-ce pas? Cela est essentiel à sa relation avec Israël. Sans l'amour, il n'y a pas de pardon. Et cela est essentiel à sa relation avec l'Église. Aimez vos maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et se livrer lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par la baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous avez des longs visages. Parce que vous vous dites, comme moi, l'Église n'est pas encore ça, hein? L'Église n'est pas encore ça. Vrai ou non? Glorieux, sans tache, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible, soyons honnêtes. L'Église n'est pas encore ça, pas encore tout à fait, en tout cas. On avait une sœur dans l'église d'Anvers où j'étais pasteur pendant des années. Une sœur qui était très fidèle, venait à toutes les réunions, mais elle avait toujours quelque chose à dire. Toujours des critiques. Une semaine, il faisait trop chaud dans l'église. La semaine d'après, il faisait trop froid. Une fois, le sermon était trop long. Une autre fois, la musique était trop forte. Il y avait toujours quelque chose. J'ai essayé plusieurs fois de parler avec elle, mais elle avait toujours raison. Un dimanche, après le culte, elle me dit, je viens plus. Je viens plus dans cette église. Non, ça c'est dommage. Pourquoi? Moi, tu dis, moi je vais chercher l'église parfaite. Et cette église n'est pas parfaite. Alors je lui donne raison. Mais cherchez l'église parfaite. Je lui ai dit, écoutez ça, j'ai deux choses à vous dire. D'abord, quand vous la trouvez votre église parfaite, veuillez me donner un coup de fil pour me donner l'adresse. Deuxièmement, quand vous avez trouvé votre église parfaite, s'il vous plaît, n'en devenez pas membre. Parce que si vous devenez membre, elle ne sera plus parfaite. Je ne l'ai plus vu. Il n'y a pas énormément d'églises évangéliques en Metz et dans la région, je crois, même pas une dizaine. Et nous, les pasteurs, on se connaît. Alors, on se rencontre de temps à autre. Et au fil de 2-3 ans suite à son départ, j'entendais, ah, maintenant, elle va là dans l'église. Et puis, quelques mois plus tard, elle va là maintenant. Et puis, elle va là, et puis, elle va là. Plus de 2-3 ans, qui est là, au culte de dimanche matin, cette sœur, elle était revenue. Et elle me dit, oui, Kevin, j'ai fait le tour des églises, et je reviens ici. Je dis, toujours en quête de l'église parfaite? Non, Kevin, parce que je n'en ai pas trouvé. Une sœur, ça que vous avez dit au début, vous n'en trouverez pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas quand Jésus. Pour le moment, pourquoi est-ce que l'Église n'est pas encore parfaite? Je ne veux pas vous insulter, mais c'est à cause de vous et à cause de moi. N'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais, nous sommes en train de nous préparer, n'est-ce pas? Nous nous préparons aux noces. Et j'espère que votre Église est maintenant meilleure qu'elle n'y était il y a un an, ou il y a 2 ans. Et que d'ici un an, elle sera encore meilleure. Elle le sera si nous le sommes. Vous me suivez? Mais la perfection, pas encore. Essayons quand même. La mariée, qui est l'Église, qui s'est préparée comme il le faut, porte des vêtements de mariage. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Au plus que nous faisons des œuvres justes, au plus nous nous préparons. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau.
Et il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Moi, j'aime bien recevoir une invitation mariage. Je sais toujours y aller. Hein, vous recevez la jolie carte. Vous êtes invité au mariage, etc. Vous faites tout votre possible pour y aller, n'est-ce pas? Et heureux, on est heureux de recevoir l'invitation. Ici, heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Qui sont les invités? On dit, c'est étonnant, mais on dit dans plusieurs livres, c'est l'Église qui est invitée. Mais non! L'Église est l'épouse. Pas l'invité. Vous ne pouvez pas être à la fois l'épouse et les invités, n'est-ce pas? Soit on est l'épouse, soit on est invité, mais pas à la fois les deux. C'est pas l'Église, c'est pas possible. Alors, qui sont les invités? Intéressant. La Bible n'en dit pas plus. Alors, je ne voudrais pas être dogmatique. Mais je pense que c'est quand même assez logique. Ceux qui n'ont jamais fait partie de l'Église, mais qui étaient croyants quand même. Nous avons tous les saints de l'Ancien Testament. Vous ne croyez pas que, au nom de l'agneau, Noé et Abraham et Moïse et Élie et Élisée et tous les autres saints de l'Ancien Testament, et beaucoup que nous ne connaissons pas parce qu'ils restent anonymes, ne seraient pas invités? Si. Et puis, nous avons les saints que nous avons déjà considérés de la grande tribulation. Ils n'ont pas fait partie de l'Église, parce que l'Église a été enlevée avant qu'eux ne se convertissent. Mais ils sont saints quand même. Ne seraient-ils pas invités? Ils sont les invités. Je pense que ça doit être cela. Il me semble très peu probable que les invités soient les non-croyants, ceux qui ont suivi et servi l'Antichrist. On ne va pas les inviter, ces gens-là, à son mariage. Il est peut-être possible, et là encore je ne voudrais pas être dogmatique, que Jésus fait allusion à ces gens-là. Dans un texte en Matthieu 8, où il dit, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est possible que c'est une allusion à cela. Je ne sais pas. On verra quand on est au ciel. Donc, Jean voit l'épouse. Et qu'est-ce que nous disons? Quand on est dans un mariage et l'épouse se présente derrière dans la salle, qu'est-ce que fait l'assistance? Tout le monde se retourne pour la voir dans sa beauté, sa belle robe. Et Jean n'avait pas ce mot dans son vocabulaire à l'époque, mais si je peux me permettre d'ajouter un mot à la parole de Dieu, quand il voit l'épouse, qu'est-ce qu'il dit? Waouh! Hein? Il est vraiment impressionné par ce qu'il voit. Et alors il dit ceci, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il sait, l'ange qui lui a montré ça. Il est tellement excité, il tombe au pied de l'ange pour l'adorer. Merci, merci. Et l'ange dit non. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Dieu va adorer l'ange qu'il a invité, lui et tous les croyants, au mariage. Mais il est empêché de le faire.
et je crois qu'il est important de souligner la vérité biblique qui est enseignée ici. C'est-à-dire que l'adoration est au Dieu seul. Ne tombons pas dans le piège d'adorer un homme ou une femme. D'adorer un serviteur de Dieu. Le respecter, oui. L'honorer, oui. L'adorer, non. L'adoration, c'est pour Dieu seul. Nous avons des exemples, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Lorsque Pierre entra, Corneille tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre, le grand apôtre Pierre, le relevant, disons, lève-toi, moi aussi je suis un homme. À l'Istre, la foule éleva la voix et dit en langue lissaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous, ils appelaient par la vache Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes et des porte-boulets, de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule à leur offrir un sacrifice. Jésus dit, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. Et Paul écrit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Pierre écrit, baissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échoués en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Dieu dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il m'en donnera tout à l'heure. Dieu partage beaucoup de choses. Mais la gloire doit lui être. Je répète, respectez les serviteurs de Dieu, les honorer, oui. Les adorer, les glorifier, non. Ne mettons jamais un homme ou une femme sur un pied de sable. Parce que tout là, il va se faire. Intéressant de voir que ce que Pierre dit ici, nous sommes tous des frères. Dans le Nouveau Testament, c'est le seul titre que nous trouvons ici. Le mot apôtre, prophète, évangéliste, etc. ne sont pas des titres, ce sont des descriptions de ministère. Comment est-ce que nous nous appelons dans la congrégation de Dieu simplement frère et sœur? Et cela s'applique à tout le monde. Aussi bien le pasteur que le plus humblement membre. Tous frères et sœurs. C'est formidable, n'est-ce pas? Ça peut être difficile parfois. Moi, je n'ai pas de frère physique. J'ai deux sœurs. Toutes les deux moins jeunes que moi. Ça veut dire que quand nous étions enfants, quand il y avait une dispute, mes sœurs se mettaient toujours ensemble contre moi. Et je me rappelle, je ne sais plus quelle était la dispute, mais un jour, de nouveau, mes sœurs sont allées trouver maman. Regarde de nouveau ce qu'il a fait. Hein? De nouveau moi. Et moi que je disais après à ma maman, pourquoi est-ce que tu m'as fait des sœurs? Deux pas sœurs.
J'oublie jamais la réponse de ma maman. Tes amis, tu peux les choisir. Tes sœurs, pas. Il y a une théologie là-dedans qui m'a dépassé en tant qu'enfant. Maintenant, je le comprends. Et dans l'Église de Dieu, Dieu ne nous a pas dit que nous devons nous appeler les uns les autres amis. Non. Il nous a dit que nous devons nous appeler frères et sœurs. Vous amis, vous pouvez les choisir. Vous frères et sœurs, pas. Et parfois, Dieu amène des gens dans l'Église, soyons honnêtes, qui sont justes. Ils ne sont pas tous parfaits encore. Frères. Paul écrit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent avec vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Et pour eux, beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Considération, affection, oui. Adoration, non. Recevez Épaphrodite dans le Seigneur avec une joie entière, honorez de tels hommes. Honneur, oui. Adoration, non. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur sur tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. N'adorons jamais des anges. N'adorons même pas des anges. N'adorons que le Seigneur. Et puis, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Cela attire l'attention au fait que le but principal de toute prophétie, que ce soit des textes prophétiques de la Bible, et ça veut dire à peu près un tiers de toute la Bible, ou que ce soit l'exercice du don de la prophétie, tout cela doit être le témoignage de Jésus. Si ça ne l'est pas, ce n'est pas inspiré de Dieu. Cela est vrai aussi, bien sûr, concernant toute prédication. Une prédication qui n'honore pas Jésus n'est pas inspirée du Saint-Esprit. Puis, verset 11, je vis le ciel ouvert. Oui. Cela a été fermé pendant la grande tribulation. Le ciel s'ouvre. Nous aimerions tous vivre sous un ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Nous avons déjà vu un cheval blanc au chapitre 6. Ce n'est pas le même cheval blanc. Là, celui qui était assis dessus, c'était l'Antichrist. Ici, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Si vous comparez cette description de Jésus à la description au début de l'Apocalypse, au premier chapitre, vous allez trouver beaucoup de termes qui sont répétés. Quand je les ai commentés en détail, quand nous avons lu le chapitre premier, je ne les commenterai pas en détail maintenant, je résumerai juste vite en passant.
Mais il y a aussi quelques éléments ici qui sont nouveaux. Là, j'aimerais m'arrêter quand même un peu plus longtemps. Le Seigneur est sur un cheval blanc. Blanc, depuis des millénaires, est la couleur des chevaux des rois. Un roi doit monter sur un cheval blanc, n'est-ce pas? Ça, c'est, on attend ça d'un roi. Comme j'ai dit, nous l'avons déjà vu, un cheval blanc. Au chapitre 6, je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partait en vainqueur et pour vaincre. Ça n'est pas Jésus. Ça, c'est l'Antichrist, l'imitation de Jésus. Mais ici, nous avons le vrai, comme plusieurs éléments du texte le confirment. D'abord, ses noms. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Son nom est la parole de Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Tous ces noms l'identifient comme Jésus, n'est-ce pas? Tous ces noms l'identifient comme Jésus. Et nous voyons ici le Seigneur, il y a cinq noms ici, dont l'un est trop sacré, trop divin, pour être connu par l'homme, qui n'est connu que par le Seigneur lui-même. Mais comme toujours dans la Bible, les noms ne sont pas seulement des noms. Nous choisissons les noms de nos enfants très souvent sans se soucier de leur signification. On choisit le nom parce qu'on le trouve joli, n'est-ce pas? Mais au temps de la Bible, ce n'était pas comme ça. Même aujourd'hui, chez les Juifs orthodoxes, pour un garçon, on ne lui donne son nom que le 8e jour. Pourquoi est-ce qu'on attend 8 jours? On observe, on réfléchit, parce qu'on choisit le nom qui a la signification des ambitions et de l'espoir qu'on a pour cet enfant. Parfois, les noms sont bien choisis. Parfois, les noms sont moins bien choisis. Le nom Abraham, par exemple, veut dire père honoré. Moi, je pense que quand son père, Terah, a choisi son nom, il a pensé, je voudrais beaucoup de petits enfants. Mais le nom était mal choisi parce qu'Abraham n'a pas eu d'enfant. Un petit-fils d'Abraham, quand il est né, son père Isaac lui a donné le nom Jacob, ce qui veut dire tricheur. Je me suis toujours demandé comment, qu'est-ce qui pourrait amener un papa ou des parents à appeler leur fils tricheur. Mais c'était un nom choisi, hein, bien choisi. Parce que tricheur, il était. Dans les deux cas, Dieu a changé le nom. Abraham est devenu Abraham, père d'une multitude. Et il est devenu aussi. Et Jacob, tricheur, est devenu Israël, prince avec Dieu, ce qu'il est devenu aussi. Heureusement que nous, pendant l'éternité, nous aurons des nouveaux noms. On ne sait pas encore lesquels. Mais Dieu nous donnera un nouveau nom qui reflète son amour, ses ambitions qu'il a pour nous. Ici, il nous a révélé quelques noms de Jésus. Fidèle et véritable. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Osée l'appelle le Saint fidèle. Et l'Épître aux Hébreux dit, Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Est-ce que Jésus a été fidèle? À combien de pourcents? 100. Si Jésus n'avait pas été fidèle jusqu'au bout, il n'y aurait pas de pardon de péché, il n'y aurait pas de salut éternel. Il mérite le nom fidèle. En Apocalypse, au premier chapitre, il s'appelle Jésus-Christ le témoin fidèle. Dans sa signature, dans les lettres qu'il a écrites aux églises, il s'appelle parfois le témoin fidèle et véritable. Et la fidélité de Dieu, c'est notre assurance, n'est-ce pas? Nous comptons pleinement sur la fidélité de Dieu, n'est-ce pas? Si on se levait demain matin et Dieu n'était pas fidèle, qu'est-ce que sera notre vie? Qu'est-ce que sera notre avenir? Nous comptons sur la fidélité de Dieu. Et Dieu dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte. Pour l'écrit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui vous a appelé est fidèle. Le Seigneur est fidèle, il vous affirmera, affirmera et vous préservera du malin. Alors restons fermement, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et puis le verset connu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous. La fidélité de Dieu est centrale à l'évangile. La fidélité est centrale, essentielle, un mariage, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la moitié des mariages échouent. Et la cause la plus fréquente, c'est la fidélité. Celui qui montait le cheval blanc s'appelle fidèle et véritable, aussi une des signatures de Jésus. Est-ce que c'est important? C'est essentiel. Il y a tant de faux dans le monde. Tant de faux. Nous venons de faire un voyage en Israël. On descend à l'aéroport à Tel Aviv. On m'a dit que, en moyenne, une fois par jour, quelqu'un descend de l'avion à l'aéroport de Tel Aviv et dit, je suis là, je suis le Messie. Un par jour, en moyenne. Je suis heureux de pouvoir vous annoncer, et nos frères et sœurs peuvent le confirmer, aucun membre de notre groupe n'a fait ça. Aucun. Mais vous imaginez, tant de faux dans le monde. Un seul véritable. Un seul véritable. Il crie à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Il a les clés. Le véritable a les clés. Et dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, il est important de savoir qui a les clés. Depuis deux semaines, nous savons que c'est maintenant M. Trump qui va sauver le monde. Vous croyez? Non, hein? Et pourquoi pas? Il tient pas les clés. Celui qui a les clés peut ouvrir et fermer. Et les clés de notre vie, les clés de la vie et la mort, c'est notre Seigneur Jésus qui les a en main. Le diable pense que lui les a, que Jésus ne lui ait jamais donné. Jésus n'est pas seulement fidèle, il est aussi véritable. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qu'est-ce qui fait
que notre religion est la vraie, et donc que toutes les autres sont fausses, eh bien parce que notre Sauveur est le véritable, pas un véritable. Il n'y a pas 36 chemins vers le ciel. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, pas un, le. Et il est le véritable. Cela a été et cela est très important parce que, justement, il y a toujours eu des faux, des imposteurs qui prétendent être Dieu. Mais il n'y a pas plusieurs, il n'y a qu'un seul qui est véritable. Et notez bien qu'il est dit qu'il est le véritable. Pas qu'il était, pas qu'il sera, il est. Et Jésus est toujours dans le présent. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Non, il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Les ténèbres se dissipent, et la lumière véritable paraît déjà. Et son onction vous enseigne toutes choses, et elle est véritable, elle n'est point un mensonge. Quelqu'un m'a une fois demandé, qu'est-ce que tu ferais si demain tu te réveilles, et tu te rends compte que ta religion n'est pas la véritable? Quel est ton plan B? J'ai répondu, il n'y a pas de plan B. Parce que je ne vais pas me réveiller demain matin et découvrir que je ne suis pas dans la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, n'est-ce pas? Et celui qui a trouvé cette seule vérité ne cherche pas plus loin. Depuis que vous et moi, nous avons trouvé Jésus, est-ce que nous avons cherché ailleurs? Non, hein? Parce que quand on a déjà le meilleur, on ne cherche pas autre part. On l'a trouvé. Et puis, il a un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Le Christ glorifié écrit à l'église de Smyrne, à celui qui vaincra, je donnerai la main cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Nous avons commenté cela quand on a lu le chapitre 2 ensemble. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, quand nous serons au ciel, on aura un nouveau nom. Quelqu'un m'a dit, est-ce que ça veut dire qu'on perdra alors le nom qu'on a déjà? Je ne sais pas. Je peux que ce soit un nom supplémentaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, un nom qui n'a pas été choisi par des parents faillibles, mais un nom qui est donné à Dieu lui-même. Nous avons déjà parlé de Jacob, qui a reçu un nouveau nom. Et ce Jacob, il a reçu ce nouveau nom après avoir lutté toute la nuit contre l'ange de l'Éternel. Et il interroge l'ange de l'Éternel en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il y a des noms qui sont trop sacrés, trop saints, pour être prononcés par les lettres de l'homme. Les Juifs ne prononcent jamais le nom de Dieu. Jamais. Ils disent le nom de Dieu est trop sacré pour être prononcé par l'homme. Le père de Samson, Manoah, dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Et l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom, il est merveilleux? Pourquoi est-ce que ces anges n'ont pas voulu révéler leur nom?
parce qu'il ne voulait pas qu'on les aborde. Mais au ciel, nous avons rendez-vous en nous. Pourquoi? Des noms qui reflètent les réalités divines et célestes que Dieu a préparées pour nous. Son nom est parole, est la parole de Dieu. Et ça, c'est aussi unique à lui. Jésus a prêché la parole de Dieu, comme nous pouvons prêcher la parole de Dieu, comme nous devons prêcher la parole de Dieu. Mais nous pouvons dire, je prêche la parole de Dieu. Seul lui peut dire, je suis la parole de Dieu. Au commencement était la parole. C'est intéressant de voir que c'est le même Jean qui écrit ça. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne change pas son inspiration. Se reprend pas de ce qui l'inspire. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et puis, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Au temps de la Bible, les noms des personnes importantes étaient souvent brodés sur leurs vêtements, d'habitude à la hauteur de la cuisse. Aujourd'hui, on porte un patch. À l'époque, sur la tunique, n'est-ce pas, qui venait jusqu'au genou pour les hommes, juste au-dessus des genoux, à la hauteur de la cuisse, on brodait le nom des personnes importantes. Certains pensent que ça pourrait indiquer un tatouage. Je le doute, parce que la Bible défend les tatouages. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Néanmoins, nous avons déjà lu que Dieu marque les siens. Il a commencé ça avec Caïn, n'est-ce pas? Mais il ne nous a jamais expliqué exactement qu'est-ce que c'est cette marque. Certains pensent à des tatouages. Je le doute, puisque Dieu dit c'est défendu. L'Éternel vit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. Dans l'un des visions du prophète Ézéchiel, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Éternel lui dit, passe au milieu de ma ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils s'y commettent. Au début de la vision de la grande tribulation, j'entends un ange dire, ne faites pas point mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et plus tard, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Et à la fin des temps, pendant l'éternité, nous lirons dans le chapitre 22, son nom sera sur le front. Qu'est-ce que signifie un nom marqué sur quelque chose? Ça indique possession, n'est-ce pas? Si vous mettez votre nom sur votre vêtement, c'est pour que tout le monde sache que le vêtement est à vous. Moi, à un moment donné, j'avais l'habitude assez souvent de prêter des livres. Et parfois, des livres ne revenaient pas. Alors, je mettais mon nom dedans. Ça m'a pas beaucoup aidé. Un ami pasteur à Gand m'avait une fois prêté un livre. Et quand j'ai ouvert la première page, il avait marqué dessus, volé de
et puis son nom. La seule que j'ai appris son livre.
Quand on met son nom dessus, possession, et quand Dieu affiche son nom sur notre front, éternellement, ça veut dire possession, propriété, ou toujours. Pour les Juifs, la marque, c'est la circoncision. C'est aussi mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Nous avons déjà vu que l'Antichrist imite le Seigneur dans toutes les choses, y compris la marque. Nous avons vu la marque de la bête, puis que tout ce qui est grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçut une marque sur leurs mains, doigts ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et Jésus promet, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'après mon d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Un nouveau nom et une nouvelle adresse. Pas besoin d'avoir une carte d'identité, ce sera écrit. Le nom sur la cuisse, comme je dis, était d'habitude brodé sur le vêtement. Pourquoi sur la cuisse? Dans la Bible, la cuisse, du temps de la Bible, la cuisse était réputée être le muscle le plus fort, le plus puissant de tout le corps humain. D'où la coutume du temps d'Abraham. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre mon fils pour mon fils, une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Mettre la main sous la cuisse, c'était un geste, un signe de soumission et d'obéissance. Voilà aussi pourquoi lors de la lutte de Jacob avec l'ange, cet homme le frappa à l'envoiture de la hanche. Et l'envoiture de la hanche de Jacob se délit. À partir de ce moment-là, il est soumis. Il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit, roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Il s'introduit ainsi au début du livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ, le témoin fidèle, premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Ces noms ont déjà été mentionnés au chapitre précédent, en rapport à la destruction de Babylone, ils combattront contre l'agneau, l'agneau les vaincra parce que il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Cela a été prophétisé longtemps en avance. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouverne. Par moi, gouverne les chefs, les grands, tous les justes de la terre. Et le roi Nebuchadnezzar adresse la parole à Daniel et dit, en vérité, votre roi est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, Seigneur des rois. Et Paul dit, Dieu l'a souverainement élevé, c'est Jésus ça, qui lui a donné le nom, tout au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre Seigneur Jésus-Christ, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Pas M. Trump, pas M. Poutine, même pas M. Michel. Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Thank you.